Bonsoir et bienvenue dans En de Noir, une émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir à tous, bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Eh bien, c'est une émission très particulière ce soir. On le sait tous, hein, nous sommes confinés. Donc le dépôt illégal est stoppé, ce qui veut dire pas de nouveaux livres. Ce qui veut dire aussi, les librairies sont fermées, ça ne vous aura pas échappé, que les romans sortis en février, en mars, n'ont pas eu la chance d'être exposés comme il le faut dans les rayons, que les critiques n'ont pas pu rendre compte de la qualité de certains de ces livres. Nous donc, dans Onde Noire, on ne va donc pas parler de cette actualité, mais tout au long de cette émission, nous allons vous proposer des romans noirs, des polars, comme on dit, feel good, pour s'aérer la tête, en gros, pour rire un peu. Autre avantage, on a choisi à chaque fois des romans assez anciens, qui se trouvent peut-être dans votre bibliothèque, que vous avez peut-être lu, ou que vous avez peut-être oublié de lire. Sinon, ils se trouvent sûrement, au moins l'un de ceux dont on va parler, dans les rayons de votre libraire habituel. Alors oui, je sais, on le redit, les librairies sont fermées, mais certains libraires font encore de la vente en ligne et envoient encore des bouquins, donc c'est le moment. Et puis surtout, surtout, ne cédez pas à la facilité. Ne commandez pas dans les grandes plateformes, je ne dirai pas les noms. Il y a beaucoup de librairies indépendantes qui conservent donc un service de livraison. Évidemment, il faut se renseigner un peu, c'est peut-être pas celle à côté de chez vous. Voilà, on va commencer, Jacques, par un des auteurs américains les plus prolixes. D'ailleurs, je ne sais pas si plusieurs, ça doit être plus d'une centaine de livres. Ce romancier, son véritable nom, c'est Donald Westlake, mais il a utilisé aussi beaucoup de pseudos. Cet homme a tout écrit. Des westerns, de la littérature érotique, des polars.
Et même pornographique.
C'est vrai que nous l'avions interviewé, ça commence à faire quelques années. Il a écrit des polars, drôles, et puis des romans, on a des romans beaucoup plus noirs, des personnages de tough guy, comme sa série Parker. Parker, c'est un tueur à gages. Et là, il écrivait sous le pseudo de Richard Stack. Là, le personnage et la série dont on va vous parler aujourd'hui, c'est la série, entre guillemets, George John Dorpunder. Jacques, tu nous présentes un petit peu ce personnage ?
Oui, donc, effectivement, là, on précise bien que c'est George Dorpunder, parce qu'on a l'habitude de dire Dorpunder,
oui,
mais...
Bah, voilà, c'est à l'américaine, bon, alors qu'il y a... Voilà.
En fait, c'est un voleur, un cambrioleur malchanceux, mais un organisateur de génie. À chaque roman, il monte des combines pas possibles pour voler l'objet du jour.
Ou les objets, des fois,
ou
ils sont
objets.
Très nombreux. Hein.
Et cela réussit à la perfection à chaque fois, jusqu'à la petite Annie Croche, qui fait tout déraper.
Et évidemment, Donald Westlake est très, 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 très fort pour mettre des Annie Croche, comme ouais. Tu dis, sur le chemin.
Il est aussi fort pour monter les coups que pour les Annie Croche. Mais Dorpunder ne serait rien sans sa bande, en fait. Il y a Kelp. C'est son compagnon,
c'est son meilleur ami.
C'est son meilleur ami, voilà.
Andy, de son prénom.
Voilà, il y a Stan Murch et sa fameuse maman chauffeur de taxi. Il y a Roger Chefwick, il n'est pas là tout le temps. Lui, c'est un fou de train électrique, mais surtout, c'est un as des serrures. Dorpunder, il vit et il cambriole à New York. Il fait parfois des escapades dans le New Jersey, mais pas beaucoup plus loin. Et à New York, il a un endroit favori. Et à New York, il a un endroit favori. C'est là où il met au point tous ses cambriolages. C'est le OG, ou OJ plutôt, en américain, OJ Bar and Grill sur Amsterdam Avenue. Et dans ce Bar and Grill, il y a Rollo, qui est le barman.
Alors Rollo, on le rencontre en général une fois. C'est rare qu'ils se réunissent deux fois. Une fois par épisode, en quelque sorte, puisque toute la bande se réunit là, les habitués et puis ceux qui sont invités à chaque fois pour rejoindre la bande. Et Rollo, en fait, il ne prononce jamais le nom des gens de la bande, il les connaît uniquement par leur consommation. Donc, il y a bière et sel. Eh ben oui, parce qu'il y en a un, il met du sel sur sa bière parce que ça empêche de mousser, dit-il. N'essayez pas, c'est pas la peine. Il y en a un autre, c'est la marque de Bourbon. Voilà. Donc, Rollo, on le croise à peu près une fois par épisode. Mais je suis déçue parce que tu as quand même oublié la femme de la bande. Il y a quand même la femme de Dorpunder qui joue un rôle non négligeable à chaque fois, mais qui fait bouillir la marmite, hein, parce qu'elle est, vendeuse dans un magasin, et elle est prête à tout pour son homme, elle, par contre. Elle est, voilà, c'est une grande amoureuse, et elle est prête à tous les sacrifices et à tout pour aider John Dormunder.
C'est vrai, j'avais oublié, mais c'est parce qu'en fait, dans le premier, elle y est pas.
Alors, le premier, justement. Alors, Westlake, écrivain, Westlake, metteur en scène. Il y a pas mal de films aussi qu'on peut peut-être trouver.
Il y a plusieurs films qui ont été tournés, d'après donc les aventures de Dormunder, enfin de Westlake donc. Le premier, le plus célèbre, bien que pas vraiment génial, mais Dormunder est interprété par Robert Redford. Ça s'appelle Les Quatre Malfrats en français. C'est un film de Peter Yates qui est quand même pas non plus un branque. Et il porte, dans tous les films, il porte rarement le nom du héros. Il s'appelle pratiquement jamais Dormunder. Je ne sais pas pourquoi, peut-être une question de droit.
Peut-être, voilà, peut-être Westlake,
peut-être que Westlake
aussi,
avait exigé
pas trop
ça.
Envie.
Alors, il a pris l'apparence de Christophe Lambert, pourquoi pas, et aussi, plus étrange, de Martin Lawrence. Donc Martin Lawrence, c'est le copain flic de Will Smith dans Bad Boys, vous voyez. C'est pas vraiment comme ça qu'on imagine, mais bon, pourquoi pas. Hein. Et nos amis de Wikipédia, et d'autres aussi d'ailleurs, nous disent qu'il y a même un film italien, qui s'appelle en italien, Come ti rapisco il pupo, soit en français, comment je te rapte le poupon, donc comment j'enlève ton bébé, en fait, qui est adapté de Jimmy the Kid, qui est le troisième aventure de Dormunder. On peut le trouver assez facilement en VO sur YouTube, qualité très moyenne, mais je vous conseille d'aller regarder ça, c'est un vrai petit régal. Je répète, come ti rapisco il pupo.
Eh ben pour les italinophobes, donc puisque il faut quand même bien maîtriser la langue, parce qu'en général ils ne parlent pas lentement, nos amis.
Non, puis c'est adapté à l'Italie, c'est pas du tout New York, c'est très étrange.
Alors on découvre, je disais qu'il y avait une quinzaine d'épisodes, je pense, hein, une quinzaine de romans consacrés à Dormunder, tout au moins de traduits, et on découvre le personnage donc Pierre qui roule, et c'est celui dont tu as choisi de nous parler aujourd'hui.
Voilà, c'est le premier. Donc le titre original, c'est The Hot Rock, la pierre chaude. Dans la série noire, sa première parution en 1971, c'est le roman en 70 aux États-Unis. Donc le premier titre s'appelle Pierre qui brûle, qui était plutôt une bonne traduction. C'était Janine Hérisson. Et il a été réédité presque une vingtaine d'années plus tard dans la collection Rivage Thriller, puis Rivage Noir, dans une nouvelle traduction de Alexis Nolent. On découvre donc John Dormunder. Dès les premières lignes du roman, il sort de prison et Kelp, son copain, son ami, vient le chercher. Il manque de l'emplafonner avec sa Cadillac. Une Cadillac volée, bien évidemment. Une Cadillac de médecin, car selon Kelp, je cite, « car il savait que les médecins laissent souvent les clés sur le contact. » Et une fois encore, le corps médical ne l'avait pas déçu.
Ça, c'est une chose qu'on retrouve quand on en lit plusieurs, c'est-à-dire qu'on a des gimmicks comme ça avec chacun des personnages qui disent la même chose ou qui font la même chose et qui est un comique de répétition, voilà, dont on ne se lasse pas. D'où le terme de comique de répétition d'ailleurs.
Exactement. Donc Dormunder, il sort de prison mais un petit peu en avance, donc il est en probation. Mais Kelp, évidemment, a déjà un coup à monter pour lui. Dormunder, qui officiellement vend des encyclopédies en porte-à-porte, n'hésitera pas longtemps. Il s'agit de voler une grosse émeraude, grosse comme une balle de golf, pour le compte d'un obscur état africain de pacotille, enfin de pacotille qui n'existe pas vraiment, mais dans l'esprit de Westlake sûrement, qui s'appelle le Talwalbo. Et du moins, en fait, ils veulent le voler pas tellement pour le compte de l'état africain, mais pour le compte de son ambassadeur, le major Iko. Le caillou appartient à un autre état africain voisin, qui le présente dans un musée à l'occasion d'une exposition d'art africain, évidemment, dans cette bonne vieille ville de New York, dans laquelle vit un peu toute notre équipe. C'est le major Iko qui finance les opérations, les préparatifs et le matériel nécessaire. Et du matériel, il va y en avoir, du plus petit jusqu'au plus gros. Je ne vais pas trop déflorer l'intrigue, mais pas vous gâcher le plaisir, mais ça va aller jusqu'au gros délire westlakien, si le mot peut exister.
Ouais, écoute, hein,
donc le premier vol, en fait, ils vont aller voler l'émeraude au musée. Et tout se déroule parfaitement jusqu'au moment où
Pierre qui roule,
je vous en dirai pas plus. Je peux vous révéler seulement qu'ils vont le chouraver plus d'une fois, ce caillou vert. Et chaque fois, de façon plus énorme, plus rocambolesque, plus colossale. L'ami Dormunder, tâchant de rester aussi impassible que possible, si que ce qui va être difficile quand même à certains moments, Évidemment, tout cela reste parfaitement crédible, enfin, presque crédible. Donald Westlake est en très grande forme pour ce premier opus des aventures de John Archibald Dortmunder. J'avais oublié de préciser tout à l'heure son deuxième prénom. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'au départ il pensait le réutiliser après la parution de ce premier roman. Mais apparemment, il avait déjà bien marché aux États-Unis en 1970. Et hop, le deuxième paraît 2 ans plus tard. Il s'appelle Le Paquet. On vous en parlera. Une œuvre de jeunesse en fait. Mais avec tous les ingrédients de ce qui fera de Westlake l'incontournable du catalogue de la série noire, puis de Rivage Noir, donc l'humour, l'inventivité, la vitalité, et cette espèce de...
Verve, on ne peut pas dire autrement, dans les dialogues, dans la description de des personnages nouveaux, des personnages anciens, c'est vraiment...
Et puis tous ces petits gimmicks, comme tu disais tout à l'heure, qui reviennent, qui font que quand on en lit plusieurs, on devient un peu complice de cette bande. Pour être plus complet, je peux préciser qu'en plus du film de Peter Yates dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi une adaptation en BD dans la collection Casterman Rivage Noir, hélas, qui n'est plus trop suivi par Casterman, mais vous pouvez peut-être la trouver. Elle s'appelle donc Pierre qui roule et elle a été adaptée et dessinée par Lax.
Donc très bel objet.
Très bel objet. Oui. Même si Dortmunder, encore une fois, n'a pas forcément la tête que moi j'imaginais quand je lisais les livres, mais ça c'est le problème des adaptations.
On a choisi un morceau de musique qui correspond bien au personnage de Dortmunder, puisque, comme tu le disais, il n'est pas forcément tout le temps serein, mais il ne se met pas souvent en colère. Et il a ce côté un petit peu gentleman, Dortmunder. Donc,
pour le gentleman voleur cambrioleur américain, on a choisi le gentleman cambrioleur français, la musique du générique d'Arsène Lupin, chantée par Jacques Lanzmann. Composé par Jacques Dutronc, chanté par Jacques Dutronc, et le texte étant de Jacques Lanzmann.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs. Sans vous menacer d'une âme, quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur.
Et voilà, cette première partie d'émission, je le rappelle, est consacrée au cambrioleur John Dortmunder et à toute sa série de livres. Donc, moi, mon préféré, c'est Dégâts des eaux, mais je vais plutôt vous parler de celui que je viens de relire, qui s'appelle Bonne conduite. Enfin, Bonne conduite, c'est la traduction dans celui qui est sorti en 2009 chez Rivage Noir. C'est un roman qui a été écrit en 1985 et au début, la première traduction, ça s'appelait Le ciel t'aidera. Les deux titres sont bons. Comme d'habitude, vous avez commencé à le comprendre, John, le malchanceux, se retrouve dans de sales draps. En gros, encore un cambriolage foiré. Et là, il se retrouve dans les premières pages dans un couvent, suspendu au-dessus d'une congrégation de bonnes sœurs ayant fait vœu de silence, qui n'est pas évident pour communiquer. Les religieuses sont connues pour respecter les règles et les lois, mais là, elles ont un service à demander à John. Ce service, c'est de récupérer leur petite sœur, Sainte Marie de la Grâce. Alors, parenthèse, cette jeune femme, c'était la petite dernière du couvent, 22-23 ans, et elle est restée quelques mois dans le couvent, et puis après, elle a été raptée, enlevée par son père, Ritter, un homme richissime, qui la tient maintenant prisonnière dans sa tour. Et oui, il va y avoir une princesse à sauver. Et il la tient prisonnière parce qu'il est persuadé qu'il faut la désenvoûter, il faut lui enlever ses idées horribles de la tête, donc il essaye tout. Les bonnes sœurs demandent donc à Dortmunder d'aller rechercher et d'aller sauver la princesse dans la tour. Mais pénétrer dans cette tour, avec tous les systèmes de sécurité, c'est impossible. Mais impossible, c'est pas un mot pour Dortmunder et toute sa troupe. Le créateur, comme on le disait tout à l'heure, Donald Westlake, aime bien lui mettre des bâtons dans les roues. Et le week-end où la fine équipe de cambrioleurs a décidé de s'enfermer dans la tour, de récupérer la bonne sœur, mais aussi de passer un petit peu dans tous les étages récupérer d'autres choses, eh bien, on a Ritter, le mania infâme. Faut bien dire que Ritter, il est un peu caricatural, mais sous la plume de Westlake, ça passe parfaitement. Donc, ce richissime homme d'affaires, qui a une vision très particulière de l'économie, du capitalisme et de la démocratie en général. Ça, est-ce que c'est vraiment une particularité d'un personnage de fiction ? Bon, je vous laisse juger. Donc, Ritter, il a décidé d'organiser ce week-end un petit séminaire pour une soixantaine de baroudeurs qui doit aller faire le coup de force dans un petit pays d'Amérique du Sud, soi-disant pour aider la veuve et l'orphelin, mais en fait pour prendre les rênes. Toute ressemblance avec des événements qui se seraient passés est évidemment, voilà, etc., etc. Donc, le même week-end, la bande de John Hunter est enfermée dans la tour, mais aussi cette bande de mercenaires. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben évidemment, je vous laisse le découvrir. D'ailleurs, j'en ai dit déjà beaucoup. L'intrigue, si elle est impeccablement ficelée, c'est pas l'atout majeur du roman, ça vous aurez peut-être compris. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la verve, l'humour omniprésent. Cette façon de toujours poser la caméra du récit dans un cadre un peu biaisé, cette légèreté dans la plume, ces propos corrosifs aussi. Souvent très corrosif, il faut savoir lire un peu entre les lignes de temps en temps, mais c'est un festival et c'est vraiment un régal. On est dépaysé, on rit, on sourit et on a envie quand même de savoir si Dormunter va gagner ou pas, parce qu'évidemment on est complètement de son côté. Toutes les intrigues se passent à New York, comme tu le disais tout à l'heure, dans le New Jersey. Alors des gars des eaux, ils partent un peu pour aller explorer un lac de retenue. Mais c'est très, 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 très citadin et très dans New York. Et puis, il y a une ambiance de rock'n'roll, on peut le dire, ce qui nous amène à notre dernière musique pour cette première partie d'émission.
Eh ben, le plus new-yorkais des chanteurs rock, Lou Reed, un enregistrement, un album à Londres en juillet 1997. Et comme on est optimiste avec ce confinement, on a choisi une chanson qui s'appelle « Perfect Day ».
What a perfect day. Drink sangria in the park. Later when it gets dark, we go home. Ooh, such a perfect day. Feed the animals in the zoo. Then later a movie too, and then home. It's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Such a perfect day. Weekend is on our own. It's such fun. Such a perfect day.
Nous nous retrouvons dans la deuxième partie d'émission. À tout de suite.